à partir du verset 25. Et on va voir ensemble cette dernière partie du chapitre 15 qui parle du ministère des chrétiens et de Paul en faveur de l'église de Jérusalem en particulier. Alors, Laure, tu pourrais nous lire le passage ? Alors, Romains chapitre 15, à partir du verset 25 jusqu'à la fin, s'il te plaît. Merci bien. Alors, c'est un passage qui est très, finalement, pratique, où Paul parle d'une action qu'il est en train de faire. Hein. Et c'est aussi intéressant parce que, du point de vue historique, ça nous permet de situer à quel moment l'Épître aux Romains a été rédigée. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de faire, donc, le micro. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de faire au moment où il rédige cette épître. Alors, Alexandre nous dit, il va à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il va faire à Jérusalem ? Ouais. Apporter des dons. Ces dons, ils ont été récoltés par qui ? Pourquoi ? Est-ce qu'on a déjà des précisions, là ? Ouais. Ils ont été collectés par des chrétiens pour l'église de Jérusalem. Alors, on voit dans le verset 26 qui a décidé collecter ces dons. Donc, c'est des églises elles-mêmes qui sont situées à quels endroits ? En Macédoine et en Achaïe. Alors, pour qu'on se mette bien d'accord, je ne sais pas si vous voyez bien le. Donc là, c'est la carte du dernier voyage de Paul tel qu'il est raconté dans le livre des Actes. Et donc la Macédoine, en fait, vous avez la Grèce là, à partir de l'op, là, sur la gauche. Et donc la Grèce était coupée en gros trois provinces romaines. Il y a la Thrace tout au nord, qui est jusqu'au bord de la mer Noire. Il y a la Macédoine. Au nord, Philippe et Thessalonique sont des villes de Macédoine. Bon, vous connaissez sûrement un Macédonien très très célèbre. Alexandre, ouais. Alexandre le Grand, c'était un Macédonien. Sa capitale était pas très loin de Thessalonique. Et son père, ouais, c'était Philippe de Macédoine. Et puis, donc la Macédoine, c'est le nord de la Grèce. Et puis le sud de la Grèce, c'est l'Achaïe. Donc c'était deux provinces romaines. On parle encore d'Achaïe dans la Grèce moderne, mais c'est devenu une toute petite partie de la Grèce. Mais voilà, en tout cas, les chrétiens de Grèce, donc qui étaient finalement des jeunes chrétiens, hein, des églises qui venaient d'être fondées quelque part, ont appris que les croyants de Jérusalem avaient été dans le besoin, et donc ils ont décidé d'eux-mêmes de faire une collecte en faveur de ces chrétiens de Jérusalem. Alors ça, c'est un épisode très intéressant parce que du coup, ça nous permet de faire un lien avec le livre des Actes. Et si on lit Actes au chapitre 20, donc à la fin de son troisième voyage missionnaire, alors, le plus intéressant, donc on voit tout ce que ouais. On n'a pas tous les détails à cet endroit-là, mais en tout cas, on sait, si on lit plutôt au chapitre 24, au moment où Paul a été arrêté à la fin de son voyage missionnaire quand il est à Jérusalem, il comparaît devant le gouverneur et il témoigne au chapitre 24, verset 17. Il dit la chose suivante. « Après plusieurs années d'absence, je suis revenu dans mon pays pour apporter une aide en argent aux gens de mon peuple et pour présenter des offrandes à Dieu. » Donc il explique que son retour vers Jérusalem, c'était pour apporter une aide en argent aux gens de son peuple, et en l'occurrence aux chrétiens de l'église de Jérusalem qui étaient d'origine juive. Et toute la fin du passage du livre des Actes, ben on a le retour de Paul à Jérusalem. On sait qu'il est passé par la Macédoine et par l'Achaïe, et que ben à cette occasion-là, il a eu l'occasion de récolter une offrande. On se rend compte aussi de ça dans la deuxième épître que Paul écrit aux Corinthiens, au chapitre 8 et au chapitre 9. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous lire les versets 1 à 4 de 2 Corinthiens chapitre 8, déjà pour commencer ? Voilà. Donc on voit que les chrétiens de Macédoine avaient, même s'ils n'étaient pas spécialement riches, ils avaient décidé de participer à cette collecte en faveur de l'église de Jérusalem. Et puis, on se rend compte quand on lit la suite. Alors, que je reprenne mon... ça y est, j'ai perdu ma référence. Oui, voilà. Donc ensuite, Paul, dans les versets, il sollicite les chrétiens de Corinthe à propos de cette offrande. Et voilà pourquoi est-ce qu'il sollicite les chrétiens de Corinthe. On voit au verset 10, en fait, de ce même chapitre, 2 Corinthiens 8, verset 10. C'est donc un simple avis que je vous donne, et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet. Achevez donc à présent de le réaliser, menez-le à terme, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Donc on se rend compte que c'était les chrétiens de Corinthe qui avaient eu cette idée de faire une collecte en faveur de l'église de Jérusalem. Et donc du coup, Paul, il encourage les chrétiens de Corinthe, dans cette deuxième épître, de se dire, maintenant que vous avez pris l'initiative, en plus il y a ceux de Macédoine qui s'y joignent, et donc maintenant, faut que ça se concrétise, quoi. Alors, on peut savoir que la lettre écrite aux Romains, elle a été écrite au moment où Paul réalise cette collecte. Et ça, c'est la fin du troisième voyage missionnaire de Paul. Alors, à quoi sert donc cette collecte ? On en a déjà un tout petit peu parlé. Elle est pour qui ? Voilà, pour l'Église, pour les pauvres de Jérusalem. Alors on peut se poser la question, Qu'est-ce qu'il y avait de particulier à Jérusalem? Pourquoi il y avait besoin d'une collecte? Bon, il y a plusieurs possibilités. Quand on lit le livre des... Pardon? Ouais, la pauvreté, mais pourquoi cette pauvreté à Jérusalem en particulier? Alors, oui, il y a la persécution, la présence romaine à Jérusalem. On se rend compte aussi la façon dont l'Église a vécu au début du livre des Actes. Hein. Actes chapitre 3, verset 44. Au moment de la Pentecôte, quand Pierre a témoigné et que de nombreuses personnes se sont converties, plusieurs milliers de personnes se sont converties. Et finalement, dans Actes chapitre 3, verset 44, on a la chose suivante qui est racontée. « Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. » Finalement, il y a beaucoup de gens qui étaient venus à Jérusalem. Et les premiers chrétiens, bah, ils sont restés là, ils ont commencé l'église. Bon, ben, il y a peut-être des gens qui étaient arrivés là qui n'avaient pas spécialement de moyens. Et puis donc, voilà, ils ont tout partagé. On sait aussi qu'il y a d'autres. Qu'est-ce que j'ai? Acte 3. Ça, c'est possible que j'ai fait de. Acte 3. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, effectivement, il n'y a pas de verset 44. C'est acte 2, verset 44, pardon. Acte 2, verset 44, ouais. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait déjà eu une collecte qui avait été faite hein, par le passé. Alors, on en parle dans le livre, Luc le raconte dans le livre des Actes, au chapitre 11, versets 27 à 30. Est-ce que quelqu'un veut nous lire ce passage-là? Donc on lit beaucoup dans le livre des Actes, là, parce que ça permet de bien comprendre comment les choses s'enchaînent. Actes, chapitre 11, versets 27 à 30. Voilà, donc même avant que Paul entame son premier voyage missionnaire, lui il était de l'église d'Antioche, donc Antioche qui est là, hein, en Syrie. Déjà cette église d'Antioche avait fait une collecte en faveur de l'église de Jérusalem. Et donc peut-être cette pauvreté des chrétiens de Jérusalem, c'était quelque chose qui était récurrent. Et alors, si on lit les versets 26 et 27, quels sont les différentes dimensions de cette collecte? Elle apparaît. Enfin, c'est. Alors, est-ce que c'est clair ma question là? Cette collecte, vis-à-vis des gens qui la font, qu'est-ce qu'elle représente? C'est peut-être plus clair quand je dis ça comme ça. Donc, c'est dans les versets en 26 et 27 en particulier. Romains, chapitre 15. Je reviens dans Romains, pardon, excusez-moi. Oh là là, je... Merci. Je reviens dans Romains. C'était une part de leur bien, oui. Ça s'est passé comment, ce début de collecte? C'était une libre initiative, ouais. Des gens de Macédoine, d'Achaïe. Oui. Ouais, c'était une initiative de leur part, libre, c'était un échange. C'était quoi aussi? Il y a un autre... Il y a un autre verbe qui est intéressant. Oui. Ouais, ils se sentent redevables quelque part. Hein. C'est comme s'ils avaient une dette vis-à-vis des chrétiens de Jérusalem. Comment est-ce qu'on comprend ça? Pourquoi est-ce qu'ils avaient une dette finalement vis-à-vis des chrétiens de Jérusalem? Et que l'Église elle a explosé à partir de Jérusalem, ouais. Ouais, voilà, c'est comme s'il y avait une façon d'exprimer leur reconnaissance. Ouais, tout à fait. Et puis, finalement, qu'est-ce que ça nous apprend comment doivent fonctionner les églises? Ouais, on doit être reconnaissant pour les dons donc, qu'on peut recevoir des autres. Des dons à la... on peut être interdépendante, oui. En fait, c'est le nom de notre union d'église. Hein, c'est pour ça que... donc, le congrès de cet après-midi, c'est le congrès de notre union d'église et c'est le congrès de l'Alliance des églises évangéliques interdépendantes, justement. Où l'idée, ce qu'on veut, c'est que les églises soient... Voilà, elles aient des relations, elles soient dépendantes les unes des autres. Et c'est vrai que, bibliquement, on s'en rend compte, là, hein, que ça fonctionne comme ça. Donc, il y a des notions d'échange. L'église de Jérusalem a envoyé des gens. Le message de l'évangile s'est répandu. Et puis, en retour, quelque part, ils reçoivent des dons parce qu'ils sont dans des difficultés, quoi. Et donc, ça peut nous apprendre aussi à comment est-ce qu'on doit fonctionner en tant qu'église, dans l'église, et puis aussi vis-à-vis des autres églises autour de nous. Bon, par exemple, l'Alsace nous a octroyé un nouveau pasteur. Il est parti de son église, hein, pour venir ici. Donc, c'est un don qu'on reçoit. Voilà. Donc on pourrait être aussi reconnaissant, peut-être qu'on aura l'occasion de l'exprimer d'une certaine façon. Et puis peut-être que d'ici de cette église, on aura l'occasion d'envoyer des gens ailleurs, et donc on pourra bénir aussi l'église à l'extérieur, à partir des gens qui ont grandi ici, quoi. Et c'est comme ça que l'église doit fonctionner. Alors, dans les versets 28 et 29... Je vous propose de continuer, hein, à moins que vous ayez des remarques. Hein, je veux pas vous.
J'avais une question. Est-ce qu'il y avait le même cas de figure que d'autres églises qui étaient passées de Jérusalem qui sont relatées dans la Bible d'être du même genre? Parce qu'en fait, je me pose la question par rapport à Jésus, si ce ne se sentait pas redévable aussi du fait que Jésus était dans une juive et qu'il se sentait une dette peut-être plus importante que cette
question. Alors, on n'a pas d'autres. Dans le livre des Actes, il n'y a pas d'autres. Collectes qui sont mentionnées à part ces collectes, parce qu'il y en a plusieurs, hein, donc celle de Acte 11 aussi, en faveur de Jérusalem. Il n'y a pas d'autres collectes en particulier qui sont mentionnées. Bon, après, le livre des Actes nous raconte un petit bout de l'histoire de l'Église. Hein. Donc on n'a pas tout. On voit l'Église qui va en direction de l'Europe dans le livre des Actes, déjà. On ne voit pas tout ce que ça. Toutes les autres, par exemple, le fonctionnaire éthiopien, on ne sait pas comment l'Église s'est développée hein, dans ces endroits-là. Ou alors vers l'Inde, hein, dans l'autre sens. Mais probablement qu'il n'y en a plus en avoir. Après, dans l'histoire de l'Église, on sait qu'il y a eu des échanges entre les Églises. Mais c'est vrai que dans les textes bibliques, non, pas spécialement. Mais donc, je vous invite du coup à continuer, versets 28 et 29. Quel est le sentiment de Paul? Comment Paul conçoit cette responsabilité qu'il a vis-à-vis de ramener... le fruit de la collecte à Jérusalem. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de carte bleue. Donc cette collecte, faut qu'elle arrive à bon port, ouais. Pardon, tu disais? Oui, parce que même s'il y avait la paix romaine, les chemins n'étaient pas toujours faciles. On sait que Paul, par ailleurs, il raconte hein, qu'il a subi des fois des difficultés lors de ses voyages. Quand on lit là, versets 28 et 29, « Lorsque je me serai acquitté de ce service et que j'aurai remis à ses destinataires le fruit de cette initiative », c'est intéressant si on lit le texte grec, la deuxième partie, là, donc quand je me serai acquitté de ce service, donc dès que j'aurai achevé cette œuvre, hein, lorsque j'aurai terminé cette affaire, et en fait, ce qu'il dit après, est que je l'aurai scellé. Il utilise le terme marqué de son sceau. Et du coup, bon, c'est difficile à comprendre en français, hein, mais c'est un petit peu comme dès que j'aurai mis le coup de tampon dessus, quoi. Quand on a un livreur qui arrive dans une entreprise et qui nous livre, bah, il nous donne le bon de livraison et puis on met un coup de tampon, ça rend le truc officiel. Effectivement, le papier a été livré, le colis a été livré. Et alors, il y a dans la Bible Darby, donc Darby traduit, il aime bien traduire les choses de façon la plus littérale possible. Alors, des fois en français, c'est pas tellement compréhensible, mais du coup, ça donne. Il dit, après donc que j'aurai achevé cette œuvre et que je leur aurai scellé ce fruit, parce que finalement c'est le fruit de la volonté et de l'initiative des Macédoniens et des gens d'Achaïe, j'irai en Espagne en passant par chez vous. Après donc que j'aurai achevé cette œuvre et que je leur aurai scellé ce fruit. Voilà. Et là il y a cette idée quand même de quelque chose, d'une tâche importante. Hein. Paul il prend ça à cœur. Hein. C'est pas. On pourrait se dire, quel est le ministère de Paul normalement ? L'évangélisation, proclamer l'évangile. Alors, et ça, là, ça fait quoi ? Est-ce que ça fait partie de son ministère ou pas ? Ben oui. Ben. En plus, il va dans le mauvais sens. Et c'est marrant cette notion de fruit, hein, parce que quelque part, ces églises de Macédoine et d'Achaïe, c'était aussi le fruit du travail de l'apôtre Paul. Et donc. Comme si, les croyants de l'église de Jérusalem recevaient une part de ce fruit qui a, de cet évangile qui s'est développé, de ces églises qui sont nées. Et il n'y a pas d'opposition dans la tête de Paul entre la partie spirituelle de son ministère, l'annonce de l'évangile, et puis la partie pratique. C'est quelque chose qui est vraiment lié, quoi. Et pour lui, il le prend vraiment à cœur. Donc, de la même façon, hein, quand nous, on a des choses à faire dans l'église, bah, faire le ménage, c'est pas moins spirituel que de faire une étude biblique, quoi. On faut le prendre avec la même, finalement, le même sérieux, quoi. Alors, donc, qu'est-ce qu'il espère après avoir fait cette. Ramené cette collecte à Jérusalem ? On en a déjà parlé la semaine dernière, je crois. Oui, voilà. Donc, lui, il a toujours ce projet d'annoncer l'évangile plus loin. Et donc, il espère passer par Rome pour pouvoir se rendre en Espagne. Et alors, ensuite, dans les versets suivants, à partir du verset 30, Paul demande quelque chose aux chrétiens de Rome. Ouais, je vous dis un peu plus fort parce que. Alors, il demande aux chrétiens de Rome que les chrétiens de Rome prient pour lui. Et effectivement, il y a quelque chose de particulier dans cette prière qu'il demande, l'intercession qu'il demande aux. Comment Paul qualifie cette prière ? Un combat. Pourquoi, à votre avis, il voit ça comme un combat ? Oui. Alors, il y a des gens qui s'opposent à son ministère, oui, effectivement. Et pourquoi est-ce que. Qu'est-ce qu'il y a aussi à Jérusalem ? Alors, là, c'est un petit peu en dehors du texte. Ouais. C'est ce qu'il dit au verset 31, hein, qu'il me fasse échapper aux incrédules de la Judée. Donc, à Jérusalem, ben, dès le début, hein, il y a une forte opposition entre l'évangile et puis finalement toute la religion juive bien établie qui finalement a rejeté le message de Jésus, quoi. Donc, il sait qu'en allant à Jérusalem, il ne va pas à l'endroit le plus tranquille du monde, quoi. De toute façon, Jérusalem était déjà réputé. Pour les Romains, c'était quand même un foyer de tensions et de révoltes et de choses compliquées. C'est toujours pareil aujourd'hui, d'ailleurs. On part entre parenthèses. Et puis, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles Paul demande de prier. Donc, effectivement, échapper et puis savoir gérer ce qui va se passer vis-à-vis des incrédules, des juifs incrédules. Et il y a un deuxième, volet dans sa prière. Ouais, donc que les gens de l'Église finalement, voilà. Alors, est-ce que vous, toi, tu trouves ça étonnant?
Oui, on se dit ils vont être contents, ils vont être heureux quand on est pensé à eux. Et là, ils se posent la question si c'est pas, ça n'a pas l'air si évident que ce sera reçu.
Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça vous suscite une réflexion? Oui, ça c'est intéressant. Hein. Ouais. Chantal? Et qu'on est dépendant d'autres personnes, ouais. Est-ce que pas. Et alors, du coup, dans notre propre vie de chrétien, comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un nous propose de l'aide? Comment est-ce qu'on réagit quand peut-être, je sais pas, une autre église voudrait nous aider pour quelque chose? Hein? Vas-y, Josia. oui, c'est ça. Dans l'interdépendance, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect qu'on peut donner aux autres, on peut être généreux vis-à-vis des autres, et puis on peut le faire concrètement, mais il y a aussi l'aspect, des fois, on a besoin des autres. Et l'Église, elle doit fonctionner aussi comme ça. Donc, Paul, il sait que peut-être que ça, ce don qui vient effectivement des chrétiens d'origine païenne, qui finalement, pour les juifs, c'était pas simple de se dire que c'était des chrétiens qui avaient autant droit à l'Évangile que eux. Il se retrouvait dans une position de faiblesse vis-à-vis de quoi? Voilà, donc il y avait quand même un contexte de tension dans tout ça. Bon, peut-être qu'on peut être rassuré. Est-ce que quelqu'un veut nous lire Actes, chapitre 21, versets 17 à 26? Alors, on voit comment était reçu finalement le don et les nouvelles de Paul quand il est arrivé à Jérusalem. Avec joie. Et puis, en l'écoutant, verset 20, il louait Dieu. Donc, voilà. Cette offrande, elle a été bien reçue. Après, justement pour faire taire les mauvaises langues vis-à-vis de cette tension qu'il y avait avec les Juifs, donc il conseille à Paul de participer à une cérémonie de purification et puis d'aller au temple. Bon, on voit, quand on lit la suite, que c'est à partir de là que ça s'est mal passé, puisqu'il y a eu de l'agitation, et puis finalement, il a été arrêté parce que... Et on va en parler juste par la suite. Il a dû comparaître devant le commandement romain, puis devant le grand conseil. Il y a le neveu de Paul qui a eu vent d'un complot. Du coup, Paul a été envoyé par le commandant romain sous escorte à Césarée, donc au bord de la mer, là où il y avait la garnison romaine. Il a comparu devant le gouverneur Félix, qu'il a laissé croupir 2 ans dans une prison à Césarée. Il y a eu un nouveau gouverneur, Festus, une nouvelle comparution. Du coup, Paul en a appelé à César. Et puis, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à aller finalement à Rome, pas trop comme il l'avait prévu, mais du coup, aux frais de la princesse. Ça, c'est à partir de la suite du livre des Actes. Je trouve ça... c'est une histoire passionnante, hein, tout ce passage. Et puis, toutes les circonstances par lesquelles, finalement, Dieu l'a fait passer. Aux frais de l'Empire romain, et puis pour que, finalement, il puisse bien aller à Rome. Alors, sauf que dans sa prière, Paul, il demande une chose. Donc, je reviens cette fois-ci au livre des Romains, chapitre 15, verset 32. Qu'est-ce qu'il demande dans sa prière ? D'autres ? Oui, ainsi je pourrais venir chez vous le cœur plein de joie. Et la fin du verset 32. Et si Dieu le veut, trouver quelque repos parmi vous. Bon. Est-ce que vous pensez que Paul avait imaginé les circonstances par lesquelles Dieu le ferait passer pour aller jusqu'à Rome ? Non. Est-ce que Paul était quelqu'un qui écoutait ce que Dieu lui disait et qu'est-ce qu'il voulait faire, sa volonté ? Est-ce que, sa prière, là, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il a exprimé, là, son besoin de repos, le fait... Est-ce que c'était conduit par Dieu ? Oui ? Voilà. Mais des fois, on se dit, bon, si j'obéis à Dieu, les trucs vont être calmes et tranquilles, et puis, du coup, il va diriger les circonstances d'une façon harmonieuse, et puis les projets que j'ai, qui sont dans sa volonté, vont bien se passer. Et là, on sait que ça s'est passé comment ? De façon un peu compliquée, quand même. Hein ? Il a passé 2 ans en prison, il a subi un naufrage, enfin, voilà. Et qu'est-ce que ça nous apprend, finalement, sur la vie chrétienne, notre marche avec Dieu ? C'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. Pardon ? C'est plutôt une mer agitée. Alors, en l'occurrence, il y a eu un naufrage. Tu allais dire quelque chose ? Ouais. Donc, ça peut aussi nous encourager quand on passe par des épreuves. Des fois, on se dit, mais finalement, pourquoi je suis au milieu de tout ce bazar ? Je ne comprends pas ce qui arrive. Je ne suis pas sûr que Paul, au moment où il s'est fait arrêter, il ait vraiment compris ce qui allait se passer. Bon, il a eu l'occasion de témoigner plusieurs fois. Hein, je vous encourage vraiment à lire tous ces derniers chapitres là, du livre des Actes. Il a témoigné devant plein de monde. Il a témoigné devant deux gouverneurs romains, devant le roi Agrippa et sa femme Bérénice. Enfin, il a témoigné devant les Juifs également. Et puis il a saisi cette occasion d'en appeler à l'empereur, et du coup pour juger son cas. Et Dieu a conduit toutes ces circonstances. Alors on se dit que c'est pas ce qu'il imaginait au moment où il écrit l'épître aux Romains, mais n'empêche que Dieu a conduit tout ça.
Même quand il était après en prison, il s'est imaginé, je sais pas si c'était dans le coup, mais il était enchaîné, hein, comme
Oui. S'il n'avait pas été en prison, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu toutes ces épîtres. Parce que là, il avait du temps. Donc, c'est aussi une bénédiction pour nous. Tout à fait. Ouais. Mmh. Oui, exactement, ouais. Donc, les épreuves n'ont pas à nous faire peur. On est prévenu que les choses ne vont pas forcément se passer comme on imagine. Mais à chaque fois, Dieu se sert de ces circonstances-là et il les utilise pour sa gloire d'une façon qu'on n'imagine même pas, quoi. Il y a un petit détail aussi qui est intéressant dans la phrase sur la prière. Si je reviens juste à ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est de nouveau un petit truc en passant. Je vous le demande, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi en priant Dieu pour moi. Encore une fois, là, il y a de nouveau, dans une petite phrase, un petit verset comme ça en passant, on a de nouveau une expression qui parle du Dieu en trois personnes, de la Trinité. Et c'est constamment comme ça, des petits clins d'œil. Et quelle est la conclusion de cette prière au verset 33 ? Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous tous. On sait que Paul a subi pas mal de soucis, de tribulations. Il a été en prison, il a été lapidé, il a subi des naufrages, il a eu des brigands. Mais il a confiance dans ce Dieu qui donne la paix. Alors, à la fois la paix intérieure pour lui, vis-à-vis de son ministère, et puis aussi la paix entre les églises elles-mêmes, hein, puisque finalement, on le voit, on l'a vu de façon concrète, cette relation qui peut exister entre les églises, qui sont à la fois, qui croient dans le même Dieu, dans le même évangile, mais qui sont à la fois d'une personnalité différente, avec un arrière-plan différent. Et Dieu est le Dieu qui donne la paix. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et Paul, il utilise cette expression de nombreuses fois. D'autres fois, il l'utilisera aussi à la fin du chapitre 16. Au chapitre 16, verset 20. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Mais après aussi dans l'épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Dans l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, verset 9. Dans la première épître aussi aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Donc dans toutes ces circonstances, dans toutes ces difficultés, dans toutes ces choses qui finalement que Paul n'avait sûrement pas imaginées, il a confiance dans ce Dieu qui donne la paix. Et donc, je vous propose que pour terminer, il y ait une ou deux personnes qui puissent remercier Dieu, ce Dieu qui donne la paix, qui, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, nous utilise si on est disponible pour lui. Donc, j'invite une ou deux personnes à prier pour clore ce moment.